Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on parle de la relation au monde, de diversité et d'écologie relationnelle avec Damien Deville. Damien Deville a 28 ans, il est géo-anthropologue et il nous invite à réfléchir à notre rapport au monde dans le livre qu'il a coécrit avec Pierre Spilvoix, « Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde » chez Tana Edition. Selon lui, la qualité d'une vie humaine dépend de son rapport au monde. Il nous invite ainsi à repenser, à réinventer et à spiritualiser notre façon d'habiter la Terre.
C'est parfait. Bonjour Damien.
Bonjour Amel.
Merci de me recevoir.
Merci à vous d'être ici.
Alors, on se voit aujourd'hui pour votre premier livre, « Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde » chez Tana Edition. Alors Damien, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez 28 ans. Vous avez écrit ce livre avec Pierre Spilvoix. Vous pourriez me raconter un peu l'histoire et ce qui a motivé l'écriture de ce livre et ce que vous appelez ces fameux liens qui peuvent sauver le monde en préambule?
Oui, alors les motivations sont plurielles pour expliquer un peu ce livre, mais je crois que moi personnellement, il y a une expérience qui a été un basculement intellectuel dans ma vie et qui m'a permis de questionner ces fameux liens à l'autre, entre humains d'abord et avec le non-humain, avec la nature ensuite. J'ai toujours été passionné de biodiversité, je crois que j'ai eu une enfance qui s'y prêtait, j'ai grandi dans un hameau au cœur des bois, j'ai grandi entouré par l'altérité, beaucoup d'animaux à la maison, beaucoup de végétaux à la maison. Et puis, une projection aussi vers les mondes de l'ailleurs. C'est vrai que quand je me souviens de ma chambre, quand j'étais petit, beaucoup de posters de l'Afrique de l'Ouest, notamment de ces populations Maasai. Alors, c'était des imaginaires très fantasmés, je ne les connaissais pas, mais je ne sais pas, je projetais énormément de rêves, finalement, dans ces sociétés-là. À 14 ans, je suis parti vers des études ancrées en écologie, plutôt un lycée agricole, et puis j'ai continué dans ces démarches jusqu'en licence 3. Je m'imaginais partir au fin fond de la savane, protéger les éléphants toute ma vie, etc. Et puis j'ai eu une expérience en Australie sur la protection des populations de koalas. Je suis parti vivre 6 mois là-bas en stage de licence 3 et là, retournement de cerveau. Retournement de cerveau parce que pour protéger les populations de koalas, on les séparait des activités humaines d'une part, mais surtout on les cloisonnait, c'est-à-dire qu'on mettait des territoires de protection sous cloche. Et on observait que ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout pour protéger les koalas sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur du long terme. Ça posait des problèmes de consanguinité. Les koalas sont des animaux territoriaux. Ils avaient une incapacité à finalement participer au renouvellement de leur diversité génétique, de leur diversité territoriale. Il y avait également une question éthique, moi, qui me dérangeait, c'est-à-dire que ces koalas avaient des intérêts à être en zone périurbaine, des inconvénients également, mais des intérêts, et qu'on refusait cette coexistence sous prétexte qu'il fallait les protéger, et du coup on leur demandait de partir quelque part.
Vous voulez dire cette coexistence avec l'homme?
Avec l'homme, quelque
Alors,
part.
Alors quels étaient leurs intérêts?
Par exemple, moins de concurrence territoriale avec d'autres espèces, de l'eau et des aliments de manière féconde, si j'ose dire. Ouais. Par contre, les inconvénients, c'était effectivement les accidents de voiture, les attaques de chiens, les activités anthropiques. Et au lieu de questionner les activités humaines sur elles-mêmes, de se dire comment on peut transiter ces activités humaines dans les zones périurbaines pour permettre la coexistence humain-koala, on la refusait, en fait, cette coexistence. Et on la refusait de manière, selon moi, hypocrite, c'est-à-dire au nom de la protection des populations de koalas. C'est-à-dire qu'au nom de la protection des populations de koalas, on leur demandait de partir. Et enfin, il y avait un troisième enjeu plutôt anthropologique qui, moi, me gênait, c'est que le koala est partout dans l'imaginaire australien. Mais en fait, on n'est pas du tout en lien avec lui. C'est-à-dire qu'on le valorise dans les imaginaires collectifs. Et pourtant, c'est une espèce qui est très loin, avec laquelle on refuse également coexistence. Et cette expérience m'a retourné un peu le cerveau. Je me suis dit, en revenant en France, en fait, finalement, est-ce qu'au lieu de penser la biodiversité sur elle-même, la question n'était pas comment on peut vivre ensemble dans l'altérité, entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite. Ça me semblait être l'une des voies pour emmener cause sociale et cause environnementale dans un seul et même horizon. Et ça m'a permis d'essayer de théoriser finalement cette fameuse société de la relation qu'on porte également dans ce livre.
D'accord. Et vous êtes appuyé sur quelle source, quelle recherche, quel savoir, quelle sagesse pour pouvoir écrire ce livre et le théoriser parce que j'ai vu j'ai noté une grande maturité effectivement qui est assez troublante pour des jeunes de 28 ans. J'imagine que le co-auteur Pierre a le même âge que vous.
Oui, on a exactement le même âge.
Et comment s'est fait la rencontre et comment a été, enfin voilà, comment vous avez
Alors avec Pierre, on s'est plutôt rencontrés sur les chemins de l'anthropologie. On s'est suivi sur une histoire très simple, on s'est suivi sur Twitter, on s'est dit c'est intéressant en fait ce que l'autre fait. On s'est rencontrés et puis on a vu qu'en fait on portait le même regard sur les choses, le même regard sur l'altérité, cette même passion de la diversité et cette volonté de la replacer au cœur de nos modèles sociaux, au cœur de nos modèles politiques. Et on a commencé ensemble à défricher justement les voies de cette société de la relation. Alors c'est très gentil à Mal sur cette maturité dans le livre, ça me touche beaucoup. Je pense qu'elle est liée à... En fait, c'est vrai qu'on est jeune, mais on est issu de ces expériences plurielles, en fait, qu'ont été les voyages, je pense. C'est paradoxal de dire ça dans les milieux écolos, puisque voyager, effectivement, pollue. Mais je crois que c'est l'une des façons de s'ouvrir à la diversité. C'est Nicolas Bouvier qui disait ça. Il disait que voyager, c'est se mettre en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on sort de ses codes, on sort de sa zone de confort. Et puisqu'on est mis en situation de vulnérabilité, on s'ouvre à l'altérité. Ça rejoint même une démarche en anthropologie qui est de se dire que finalement, l'ouverture à l'altérité demande de se faire violence quelque part, d'être soumis à une violence, pas forcément physique, ça peut être une violence symbolique, mais c'est une des manières de s'ouvrir à l'altérité. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti lors de mon stage, par exemple, en Australie. C'est quelque chose qui a été très violent pour moi. Déjà, en termes de solitude, je parlais très mal anglais quand je suis parti en Australie, je me suis senti très seul, notamment au début, le temps de faire ses premiers pas, mais également physiquement. Il fallait imaginer mon stage, 8 heures de randonnée par jour dans le bush australien, parfois dans un bush tellement dense qu'on avançait à la machette. Alors bien sûr, c'est incroyable de faire ça, c'était les rangers que moi je voyais à la télé quand j'étais petit, j'étais avec eux finalement là en Australie, mais physiquement c'était très dur. C'était très dur parce que mon corps n'était pas préparé à ça. Moi, mon enfance, je dois l'avouer, bon, ok, je courais un peu les bois pendant mon enfance, mais je jouais beaucoup aux jeux vidéo, finalement. Je n'étais pas quelqu'un de très physique. Donc, c'est quelque chose qui a été très violent symboliquement et physiquement pour moi. Mais finalement, c'est peut-être cette violence qui m'a permis de me dynamiter le cerveau et de changer complètement de trajectoire intellectuelle, de m'ouvrir à l'altérité autrement.
Alors, c'est quoi l'altérité ?
L'altérité, c'est ce qui est fondamentalement autre, en fait. C'est ce qui... Et altère, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment, mais qui nous ouvre à une trajectoire de vie différente. Moi, je l'aperçois comme ça,
d'accord,
l'altérité.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre monde, pour les Occidentaux ? Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, pour nous ? Comment vous imaginez ces nouvelles relations au monde, cette altérité dans nos vies, de parisiens, d'urbains, de...
Ouais, alors en fait, ça c'est un grand enseignement du livre et de nos voyages, c'est que en fait la diversité qu'on projetait ailleurs, à l'étranger, elle est également présente chez nous, dans l'espace de nos quotidiens. Mais on n'arrive plus à la voir. On n'arrive notamment plus à la voir dans la manière dont on a forgé nos modèles politiques et économiques, le capitaliste comme on dit, mais également la manière dont on a aménagé les territoires. C'est Henri Lefebvre qui disait ça, un grand géographe, que dans nos villes on passe d'un point A à un point B sans se rendre compte de toute la vie, de toute la diversité qui nous entoure. Et ça a été également l'aventure de ce livre, c'est comment on peut reforger des concepts qui nous permettent de nous ouvrir à l'altérité, qu'elle soit proche ou lointaine quelque part. Dans notre livre, on en déploie 3 de ces concepts. C'est d'une part la vulnérabilité. C'est de se dire qu'on est tous vulnérables et que pour lutter contre cette vulnérabilité, on a besoin d'entrer en relation. Et d'ailleurs, on est en relation quotidienne, qu'on le veuille ou non, on est nous-mêmes des êtres relationnels, à commencer par les bactéries de notre corps qui nous aident à digérer, par ces personnes qu'on a rencontrées qui influencent notre trajectoire de vie, par la couleur de la terre dans laquelle on a grandi, qui finit toujours par influencer d'une manière ou d'une autre les corps et les esprits. Il y a Tim Ingold, un anthropologue qui est présent dans le livre, qui utilise cette phrase très belle, cette métaphore très belle, qui dit que la vie c'est comme une maison en fait. On fréquente un territoire qui a été forgé par des générations passées, qu'on ne rencontrera jamais, mais qui influence nos pas, qui influence les chemins qu'on va prendre. Et par nos actes quotidiens, on va modifier à notre tour notre maison, on va modifier à notre tour notre territoire, et on va conditionner un autre théâtre de développement pour des générations futures qu'on ne rencontrera également jamais. Nos vies sont un passage relationnel, finalement, entre les fantômes qui étaient là hier et les générations futures qui seront là demain. Deuxième démarche, c'est la rencontre. Puisqu'à partir du moment où on est un être relationnel, ça demande de savoir comment on peut rencontrer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est un exercice qui est très difficile, qui demande vraiment de sortir de soi-même pour essayer de rentrer dans le regard de l'autre, dans la trajectoire de vie de l'autre. Certaines disciplines qui sont présentes dans le livre aident. Nous, je pense que le livre est ancré majoritairement à travers 3 disciplines, mais bon, on peut les déployer à travers d'autres disciplines. C'est l'anthropologie, la géographie chez nous, et plutôt, j'ai envie de dire, les sciences politiques. En tout cas, les façons de faire collectif, la politique de manière générale. Dans cette rencontre, en fait, on peut créer des résultats qui sont largement supérieurs à la somme des parties. En anthropologie, en géographie, 1 plus 1, ça n'a jamais fait 2. J'aime bien prendre l'exemple des chiens, parce que moi, j'ai toujours été entouré de chiens, c'est très important pour moi. Un humain plus un chien, ça ne fait pas 2. L'amitié rajoute un 3, les souvenirs rajoutent un 4, ça crée du temps. Lorsqu'on aménage son emploi du temps pour pouvoir passer du temps avec l'autre, du moins lorsqu'on devrait aménager son emploi du temps pour passer du temps avec l'autre, j'avoue, je suis moi-même toujours un petit peu énervé quand je vois des gens qui prennent des chiens et qui sont absents 10 heures par jour de leur maison. C'est-à-dire qu'ils prennent un chien non pas pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un acte relationnel qui a besoin d'une meute au quotidien, qui a besoin d'un collectif au quotidien, mais plutôt pour un objet vivant qu'on instrumentalise en fonction de son propre emploi du temps. Bref, j'ai fait une parenthèse, pardon. Ça crée également de l'espace lorsqu'on aménage son jardin, son appartement pour pouvoir vivre avec l'autre. Bref, ça crée un monde de diversité qui est propre à 2 individus. Un monde relationnel qui est propre à 2 individus. Imaginons ce qu'il est possible de faire avec une multitude d'humains à l'échelle des territoires et une multitude de non-humains. Ça ouvre des voies d'expérimentation qui sont incroyables à travers cette relation et des voies qui nous semblent très émancipateurs, autant pour les humains que pour les non-humains. Et enfin, la troisième voie, c'est la justice. Pourquoi la justice ? Parce que quand on a dit relation, on a un peu tout et rien dit, parce que la domination, la prédation, la destruction, c'est également des formes de relation. Et pour que ces formes de relation soient émancipatrices pour les deux parties prenantes, il devient important de les replacer au regard de la justice. Alors la justice, c'est quoi ? C'est, je crois, reconnaître que chaque vivant est capable d'aménager des mondes et on doit lui rendre cette capacité à aménager des mondes. Les castors modifient les cours d'eau en construisant des barrages, un arbre construit un écosystème à ses pieds qui change la vie d'autres personnes quelque part. Mais c'est également cette capacité à intégrer nos vies à travers la vie des autres. On est tous liés par une communauté de destin, par-delà l'humain, par-delà l'Occitan, par-delà le visible même. Et je crois que c'est cette communauté de destin qu'il faut placer au regard de la justice. C'est à cette voie d'expérimentation qu'invite quelque part le livre. Alors c'est vrai qu'on ne dit pas trop comment faire à l'échelle des territoires, mais c'est une volonté qu'on a prise dans ce livre, parce qu'on ne veut pas s'ancrer dans une démarche normative. On ne veut pas dire aux gens quoi faire. Moi j'en ai un peu marre d'ailleurs en écologie, on est beaucoup dans ces positions normatives. Et ce faisant, par un effet de boomerang, on peut détruire ce dont l'écologie est censée être la gardienne, qui est la diversité des mondes, la diversité des territoires. Donc ce qu'on a choisi de faire dans ce livre, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent se positionner par eux-mêmes face aux grandes questions sociales et environnementales et qu'ils puissent expérimenter par eux-mêmes la relation dans leur singularité territoriale, dans leur singularité vécue au quotidien.
Donc à l'échelle d'un homme qui vit par exemple à Paris, c'est quoi le quotidien d'un homme, d'un humain qui est dans des liens qui favorisent l'altérité?
Eh bien, c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend beaucoup de chaque territoire. On ne crée pas lien de la même façon à Paris que dans un village rural, par exemple, ou qu'en Afrique de l'Ouest, en campagne, en brousse ou en ville d'ailleurs. Mais je pense qu'il n'y a pas de normes. C'est chacun doit s'inscrire dans une trajectoire relationnelle et également en fonction de sa propre trajectoire de vie. En ville, moi, je pense qu'il y a un outil qui permet de le penser, qui a été développé par ce même géographe qui s'appelle Henri Lefebvre. C'est ce qu'il appelle le droit à la ville. Mais d'ailleurs, qu'on pourrait étendre à un droit au territoire, à un droit au village, c'est de se dire qu'en fait, la ville est un commun. Le territoire appartient à tous et qu'on est chacun gardien de la façon de faire vivre ce territoire. Et pour mettre ce territoire en relation, pour rentrer en relation avec l'autre, je pense qu'il y a 2 outils qui permettent de le faire. L'appropriation du territoire, d'une part. Faire en sorte que la ville devienne œuvre. Alors l'appropriation du territoire, c'est quoi ? C'est des jardins en ville, par exemple. C'est du spectacle vivant, c'est des œuvres de street art. C'est mettre l'habiter non plus seulement dans l'habitat, notre propre appartement, mais c'est faire théâtre collectif, c'est faire scène commune, si vous voulez, dans l'espace public. Et ça, d'ailleurs, ça me marque à chaque fois que je vais en Afrique, de voir à quel point l'espace est vécu en Afrique, alors qu'en France, l'espace n'est plus du tout vécu. On passe d'un point A à un point B dans les villes, alors qu'on pourrait créer dans les rues des choses incroyables. Et la deuxième forme d'action, c'est plutôt des formes de participation aux décisions citoyennes, sociales et politiques qui sont prises à l'échelle de la ville. Des budgets participatifs, comme c'est fait par exemple à Paris, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Des conseils de quartier auxquels on redonne des compétences, un agir politique vraiment. Et je pense même que ce droit à la ville, au sens radical du terme, change complètement la façon dont on voit le leader politique à l'échelle des territoires. Quand j'entends leader politique, ce n'est pas forcément l'élu. Il y a d'autres formes de lead en fait, politique à l'échelle des territoires. Ça peut être un dirigeant d'entreprise, ça peut être un aménageur du territoire, ça peut être une personnalité publique. En fait, ces personnes-là ne sont plus là pour... au regard de la relation, pour prendre des décisions. Ils ne sont plus des patrons, quelque part. Ils ne sont plus là pour prendre des décisions pour les autres, mais plutôt pour devenir des agents de lien, des animateurs de relations, pour que les décisions soient prises de manière collective à l'échelle des territoires. Ça devient des ambassadeurs d'un système relationnel, d'un symbole territorial qui est partagé de manière collective.
Génial. Du coup, est-ce que ça sous-entend tout ça un engagement particulier? Vous, à l'avenir, vous avez 28 ans. On sent bien le dynamisme et...
C'est gentil, merci Anna.
Et cette assertivité qui caractérise enfin, votre verbe et puis votre livre aussi, est-ce que vous êtes engagé vous par ailleurs dans la vie
Oui, alors c'est vraiment, moi j'aime bien me définir, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça à 28 ans, mais il faut le voir plutôt comme une métaphore plutôt que comme une catégorie intellectuelle en tant que telle. Mais j'aime bien me définir comme méditant et militant, c'est-à-dire à la fois essayer de théoriser les mondes qui nous entourent, notamment essayer de théoriser cette société de la relation qu'on appelle de nos vœux, mais également participer modestement au changement de ces mêmes mondes et d'explorer les chemins d'action individuelle et collective qui peuvent mener vers cet horizon partagé, vers ce nouveau récit commun qui est la société de la relation. Donc je suis moi-même engagé en parallèle de mes recherches en société civile, notamment là avec des amis on est en train de construire un archipel de la relation avec plein de structures qui semblent engagées également dans une dynamique relationnelle. Ça s'appelle la relation à la nature, aux animaux, à la précarité, aux SDF. Chaque association, penseur, artiste, petites entreprises de cet archipel a une singularité, mais on a envie de faire monde commun. Donc on est au tout début de cette aventure, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, hein, ça serait prématuré. Mais en tout cas, il y a des beaux projets en perspective de ce côté-là. J'ai moi-même une formation politique pour ne rien cacher à l'auditoire, même si je suis peu vindicatif. Et puis j'aimerais également participer à ce métissage franco-africain qui me caractérise. Ça ne se voit pas trop, mais je suis moi-même franco-burkinabé.
Oui, vous me disiez tout à l'heure que vous avez pris la nationalité
burkinabé. Ouais. Pour le moment, j'ai aucune expertise sur l'Afrique de l'Ouest, je préfère le dire. Mais disons que l'Afrique est une morsure de serpent. Quand on y va, je crois que c'est un venin qui se répand dans les veines et qui finit par tatouer les corps, qui finit par être présent qu'on le veuille ou non. Et je vois l'Afrique de l'Ouest comme ça pour moi. Alors j'ai vécu un petit peu à Abidjan, j'ai fait des séjours très réguliers au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, ça a changé ma perception des mondes, quelque part.
Qu'est-ce que ça vous a...
Je ne sais pas, en Afrique, pour moi, l'Afrique est un milieu difficile aussi, mais il y a tellement de belles choses. La maison de retraite s'appelle la famille en Afrique. Les corps sont sculptés, énormément de couleurs, des pagnes, des paysages, l'espace public habité, qui fait qu'on ne se sent jamais en solitude, quelque part. On est toujours entouré en Afrique, même parfois quand on le veut pas. En fait, à chaque fois que je reviens en France, j'ai cette impression de voir le monde en noir et blanc. À chaque fois que je reviens en France depuis l'Afrique, et ça m'invite à remettre des couleurs, finalement, dans les mondes occidentaux qui les ont en grande partie perdus. Et l'Afrique, c'est ça pour moi, quelque part. Pour le moment, ce n'est pas une expertise. C'est plutôt un imaginaire qui me regarde par-dessus l'épaule et qui guide un peu mes pas. Et j'aimerais ancrer ces chemins d'action de la relation autant en France qu'en Afrique de l'Ouest. J'aimerais aussi m'engager pour les mondes africains. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre encore, mais voilà, j'y pense. J'y pense.
Eh bien, merci beaucoup, Damien.
Je t'en prie, Amal, avec grand plaisir.
C'était vraiment un vrai plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Oh, me souhaiter à moi, je ne sais pas. En tout cas, souhaiter peut-être au collectif, c'est d'expérimenter à toutes les échelles que ce soit cette société de la relation à l'autre. Je pense que ça passe par trois choses. La relation à soi-même. On oublie que dans l'écologie, il y a également une forme de spiritualité, dans le sens où l'écologie redéfinit ce qui fait même humanité en tant que telle, la relation à l'autre, qu'il soit humain ou non humain, essayer de l'accueillir, la différence pour ce qu'elle est, non pour ce qu'on voudrait qu'elle soit dans nos vies de manière générale, et puis la relation à l'engagement. à la politique, c'est-à-dire essayer de défricher des nouvelles formes d'action collective. Moi, je pense qu'on n'a pas trouvé encore la clé. Je pense que les formes partisanes sont importantes, mais qu'elles sont loin d'être hégémoniques, et je pense même qu'elles sont loin d'être les plus performatives pour penser la transition. Moi, je crois beaucoup, d'ailleurs, beaucoup plus à créer des espaces. Quand je dis créer des espaces, c'est par exemple partir dans ses veines, faire une ferme collective qui va changer complètement un territoire. Quand je dis créer des espaces, c'est par exemple cette association SOS Méditerranée qui ne fait pas signer des pétitions pour accueillir les migrants, qui crée un espace, un bateau, qui vont eux-mêmes chercher les migrants. En faisant ça, on est dans l'action politique directe, on est dans la création de nouveaux symboles à l'échelle des territoires, dans de nouveaux espaces de vie, dans une nouvelle expérience partagée quelque part. Ça me semble être la voie pour emmener humains et non-humains dans un seul et même bateau, cause sociale et cause environnementale dans un seul et même bateau. Et j'invite tout le monde peut-être à l'expérimenter à l'échelle de leur territoire vécu.
Donc en gros, tu dis quoi? Tu dis plutôt que manifester, c'est créer des choses?
Créer du lien, changer les territoires, ouais. Ça serait un peu ça.
D'accord.
Ça serait un peu ça la clé.
Ok, super. Bah, très bien, c'est bien reçu. Un dernier mot, peut-être?
Un dernier mot, eh bien... Ouais, peut-être que de dire que... À qui sait voir, la diversité est partout. Essayons de la redécouvrir et de la mettre au cœur de nos vies.
Parce que c'est une richesse?
Parce que c'est tout ce qui devrait nous rassembler. C'est tout ce qui met de l'enchantement au monde, c'est tout ce qui permet l'émancipation, c'est tout ce qui permet à la vie d'être vécue. À la vie qui mérite d'être vécue. Ouais.
Eh bien, merci Damien Deville.
Merci à toi, Amel.
Eh bien, je rappelle le titre de votre livre, puisque vous êtes deux auteurs, Damien Deville et Pierre Spiloubois, « Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde » chez Tana Édition. À bientôt.
À bientôt.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre de Damien Deville et de Pierre Spiloubois, « Toutes les couleurs de la Terre, ces liens qui peuvent sauver le monde » chez Tana Édition. De mon côté, je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt !